France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Thaïssa Froidure, Dalia, Stéphane Poitvin et Olivier Dehay. Voici la deuxième de trois émissions que nous consacrons cette semaine au compositeur français Florent Schmitt, 150 ans, après sa naissance à Blamont le 28 septembre 1870. Hier nous évoquions la Belle Époque, plus exactement le tout début du XXe siècle, avec son prix de Rome remporté à cette époque, avec des œuvres comme le psaume 47, la tragédie de Salomé ou encore le quintet pour piano et cordes. Aujourd'hui, ce sera la Grande Guerre et surtout les années 20. Mais voici une dernière œuvre de cette belle époque. C'est en 1906 que Schmitt compose sur 5 notes, opus 34, première partition d'une série d'œuvres écrites pour les enfants, petits et grands, un répertoire dans lequel Florent Schmitt va s'illustrer à de nombreuses reprises. C'est le tuyau Invencia, autrement dit Oksana Loutsichin et Andrei Kasparov qui interprétaient ce bercement, quatrième des pièces opus 34 de Florent Schmitt, composé en 1906 sous le titre de Sur 5 notes. Ce répertoire à deux pianos a été très cher au compositeur Florent Schmitt, dont je vous rappelle, je le disais hier, Catherine Laurent a consacré une biographie qui est parue chez 2012 aux éditions Bleu Nuit Éditeur. Florent Schmitt qui, pendant la Grande Guerre, se trouve à Toul, dans sa Meurthe et Moselle natale, et il croise la route d'un des fondateurs du cubisme, Albert Gleizes, qui fait son portrait cubiste comme il se doit, une toile que l'on peut admirer au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et c'est à cette époque qu'il entame la composition de son Petit Elfe ferme l'œil. C'est une partition qui s'inspire d'un conte d'Andersen, qui d'abord a été une partition pour deux pianos, qui ensuite a été orchestrée et présenté comme un ballet au début des années 20. Ce Petit Elfe ferme l'œil, en voici les premières pages avec l'Orchestre National de Lorraine, dirigé par Jacques Mercier, tour à tour prélude, la fête nationale des souris, la cigogne lasse et le cheval de ferme l'œil.
Thank you.
Voilà un Florent Schmitt inhabituel, heureux de raconter aux enfants les plus belles histoires du monde et n'hésitant pas à mobiliser pour cela les ressources les plus éblouissantes de son prestigieux orchestre. Au même titre que Ravel dans L'Enfant et les Sortilèges, Schmitt y a consigné certaines des musiques les plus belles et les plus intenses qu'un musicien ait jamais dédiées à l'enfance. Voilà ce qu'écrit le musicologue Michel Fleury dans le livret de ce disque de l'Orchestre National de Lorraine dirigé par Jacques Mercier. C'était les premières notes de ce petit elfe ferme l'œil, opus 73 de Florent Schmitt.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
J'évoquais tout à l'heure un portrait cubiste de Florent Schmitt avec une erreur de géographie. Ce n'est pas au musée de la ville de Paris, musée d'art moderne de la ville de Paris, mais au musée national d'art moderne, donc autrement dit au centre Pompidou, qu'on peut admirer ce champ de la guerre d'Albert Gleizes qui a été peint tandis que lui et Florent Schmitt étaient soldats au 41e régiment d'infanterie territoriale de Toul. Ensuite, en 1916, Florent Schmitt sera incorporé au 163e régiment d'infanterie où il termine plusieurs de ses partitions, dont son opus 64, une partition pour piano seul intitulée « Ombre » et qui témoigne de la noirceur de l'époque. Guy Sacre, dans son dictionnaire de la musique de piano, écrit, je cite, « C'est ainsi, et des lustres entiers ne suffiront pas à réparer cette injustice. Le chef-d'œuvre pianistique de Florent Schmitt est toujours méconnu. Pourtant, voici des morceaux magnifiques, riches d'art et de substance, à la fois pensés et vécus. Ce n'est plus seulement le peintre qui s'exprime, l'enlumineur ou le poète. C'est l'homme moins occupé d'enjoliver la réalité que de la transmettre âpre et vivante. Plus que jamais, il lui faut toutes les notes du clavier, tous les plans, toutes les combinaisons sonores. On pourra s'effrayer d'une écriture excessivement touffue, à quoi seul l'orchestre, et ce fut le sentiment de l'auteur, semble pouvoir rendre pleinement justice. Mais point, l'œuvre est bel et bien pianistique, dans la lignée des plus grandes pages de Debussy et de Ravel, qui eux non plus ne craignaient pas d'en mettre au pianiste plein les mains. Fin de citation. Voici la troisième de ces ombres, dont le titre s'inspire de Walt Whitman, « Cette ombre, mon image », par Vincent Larderet. Cette ombre, mon image, la troisième des ombres, opus 64 de Florent Schmitt, interprétée par Vincent Larderet. N'étaient des considérations, hélas, extra-musicales, Florent Schmitt occuperait une position bien plus éminente dans le panthéon de la musique française, connu pour ses coups de gueule, son humour vache, des prises de position inconsidérées l'égarèrent durant les années noires d'occupation allemande sur les chemins de la collaboration, alors que tout au contraire, il faisait preuve dans son soutien constant aux nouvelles générations de compositeurs d'un discernement aiguisé. Ne retenons pour l'heure que la puissance de son interprétation, de son inspiration créatrice. Voilà ce qu'écrit Sylviane Falsinelli dans le livret d'un disque paru chez Signature Radio France en 2016 avec la violoniste Hélène Collerette, violon solo de l'Orchestre National de France, et la pianiste Anne Bozek autour de trois sonates, dont la sonate libre en deux parties enchaînées, opus 68 de Florent Schmitt. Partition dont nous écoutons le premier mouvement, qui est un témoignage sonore de ces années de Première Guerre mondiale, de la noirceur et des espoirs quand même engendrés par certains événements à la fin de la guerre. Mais c'est avant tout une partition qui témoigne de la richesse de l'univers sonore de Florent Schmitt. Thank you. la violoniste Hélène Collerette et la pianiste Anne Le Bozec dans le premier mouvement lent, sans exagération, demande Florent Schmitt, de cette sonate libre pour violon et piano, opus 68.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
L'opus suivant, le 69, va nous emmener dans un environnement justement érotique et orientaliste. Nous avions entendu hier que Florent Schmitt possédait également un tropisme oriental, non pas dans l'influence des musiques qu'il aurait pu entendre dans ses voyages en Afrique du Nord ou en Grèce, mais dans le choix de ses thèmes, comme le psaume 47 dans la tragédie de Salomé. Il y aura en 1925 la musique du film Salammbô du réalisateur Pierre Marodon, d'après le roman de Flaubert, et il y a cet Antoine et Cléopâtre en 1920, musique qui s'inspire du chef-d'œuvre de William Shakespeare et qui est dansée à l'Opéra de Paris par Ida Rubinstein, qui fut la Salomé d'Oscar Wilde dans une chorégraphie déshabillée de Michel Fokine, qui avait dansé une Cléopâtre au ballet russe de Diaghilev avant la guerre, et puis une Scheherazade interprétant en 1911 le martyr de Saint-Sébastien de Debussy et d'Annunzio aux grandes dames de l'Église catholique. Et avant de créer le boléro qu'elle commande à Maurice Ravel, Ida Rubinstein interprète donc ce rôle de Cléopâtre dans cet Antoine et Cléopâtre dont voici un extrait par l'orchestre symphonique de la BBC dirigé par Zachary Oramo. Et c'est tout un programme, voici Orgie et danse. Thank you. L'orchestre symphonique de la BBC dirigé par Zachary Oramo. C'était Orgie et danse, extrait d'Antoine et Cléopâtre que Florent Schmitt avait conçu en 1920, juste avant de devenir directeur du conservatoire de Lyon qui va diriger de 1921 à 1924. Je n'ai pas évoqué les nombreuses fondations et les institutions auxquelles a fait partie Florent Schmitt, notamment la société musicale indépendante qu'il avait fondée en 1909 avec Maurice Ravel, Charles Quéclin ou encore Louis Aubert. Alors, nous avions évoqué hier les tout débuts de Florent Schmitt et notamment sa formation au conservatoire de Paris auprès de ses maîtres Jules Massenet et surtout Gabriel Fauré qui va beaucoup marquer Florent Schmitt dans ses premières œuvres. Et puis, spirituellement, Gabriel Fauré était quelqu'un qui a été très important pour Florent Schmitt. Il le rappelle dans deux œuvres en hommage à son maître disparu en 1924. Il s'agit d'un scherzo sur le nom de Fauré qu'on écoutera dans une dizaine de minutes et de ce 6 pouces Feralis, voilà un titre en latin qui nous indique ces mots, 6 pouces qui signifie un cipe, C-I-2-P-E. C'est une stèle, un petit monument de forme carrée ou ronde avec une inscription. Et Feralis, c'est funéraire, donc tout simplement stèle funéraire que cette partition qui n'a rien à voir avec la musique de Fauré, qui est du Florent Schmitt tout entier, ici interprétée par l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française, l'actuel Orchestre National de France, sous la direction de Georges Prêtre. À Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, le 22 novembre 1960, donc 2 ans après la mort de Florent Schmitt, l'Orchestre National de la Radio-Télévision Française, dirigé par Georges Prêtre, interprétait son Sipus Feralis, stèle funéraire écrite à la mémoire de son maître Gabriel Fauré, premier volet d'un diptyque intitulé In Memoriam, opus 72.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et le second volet de ce In Memoriam est beaucoup plus court et plus nerveux. C'est un scherzo sur le nom de Fauré. De nombreux compositeurs élèves de Fauré, comme Maurice Ravel, se sont amusés à écrire des œuvres à partir des lettres de son nom, F-A-U-R-E, accent aigu bien sûr, et dans la notation germanique, ce qui correspond aux notes Fa, La, Sol, Ré, Mi. Eh bien, Florent Schmitt joue sur ces 5 notes et il ajoute également le prénom Gabriel, correspondant à Sol, La, Si, Ré, Si, Mi, Mi, ce qui donne ce scherzo sur le nom de Fauré, opus 72, ici interprété par l'Académie de Saint-Martin-des-Champs, Saint Martin in the Fields, dirigé par Neville Mariner. Scherzo sur le nom de Forêt de Florent Schmitt par l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigé par Neville Mariner. Nous évoquons souvent en parallèle Florent Schmitt et Maurice Ravel. Tous deux se sont connus, sont côtoyés, sont appréciés malgré leur tempérament et leurs convictions diamétralement opposées. Et ils ont travaillé ensemble sur une partition collective qui s'appelle L'éventail de Jeanne. Cette Jeanne, c'est Jeanne Dubost, professeur de danse, qui dirigeait un ballet pour enfants. Et Jeanne Dubost, en 1927, avait démontré un éventail qui avait 10 feuilles et chacune des feuilles a été distribuée à un compositeur pour qu'il écrive une petite partition chorégraphique à l'attention de ses petits élèves. Cette partition collective, c'est donc l'éventail de Jeanne. Maurice Ravel en a écrit la fanfare initiale, c'est souvent cela qu'on entend. Il y a des œuvres de Jacques Ibert, d'Albert Roussel, de Darius Milhaud, de Francis Poulenc, de Georges Auric. Et puis la toute dernière partition de cet éventail de Jeanne est signée Florent Schmitt. C'est cette kermesse valse interprétée par l'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par John Axelrod.
Thank you.
Kermers Vals, la dernière partie de l'éventail de Jeanne. C'est une partition de Florent Schmitt qui était ici jouée par l'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigée par John Axelrod. Bonjour Lionel Esparza.
Bonjour François-Xavier Chemchak. Demain, troisième volet, j'imagine. Troisième. Schmitt et Wisson, c'est ça?
Schmitt et Wisson, voilà, ça va tirer dans tous les sens. Et il y aura une symphonie concertante, une très belle partition, Oriane et le Prince d'Amour, et puis des interprètes comme Henri de Marquette, l'Orchestre National de France ou encore Charles Munch.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.